La matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagé.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Le sujet étudiant.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la sage-femme. Depuis plus de 15 ans, le 5 mai est dédié à l'un des plus beaux métiers du monde. Il s'agit de la journée mondiale de la sage-femme. Cette profession comporte de multiples facettes et est trop méconnue du grand public. Cette journée est l'occasion de découvrir ce métier de donneuse de vie, rendre hommage aux femmes qui le pratiquent et montrer leur importance au sein de la société. L'Association nationale des sages-femmes libérales profite de cette journée particulière pour renseigner le grand public sur la richesse de ce métier, les compétences nécessaires et la diversité dans leur activité quotidienne. Reconnue profession médicale, la formation nécessite 5 années d'études, dont 1 an de médecine. La sage-femme surveille la grossesse, en suit l'évolution et en gère l'accouchement. Dans certains pays, une femme qui survit à l'accouchement est une miraculée. Dans d'autres, l'idée même qu'une femme puisse mourir en donnant naissance est impensable. Le taux de mortalité maternelle mondiale nous rappelle que mourir pendant l'accouchement est toujours un fléau qui touche des centaines de milliers de femmes, 340 000 par an précisément. La principale cause, c'est un manque d'accès aux soins de santé qualifiés, c'est-à-dire à des centres de santé techniquement équipés, dont le personnel médical est formé à la prise en charge des urgences obstétriques. Le 5 mai, Journée internationale des sages-femmes, nous rappelle l'importance de leur rôle pour l'amélioration de la santé maternelle dans le monde entier. Dans les pays en voie de développement, elles ne sont parfois que quelques-unes par village, là où elles devraient être le triple. Elles sont souvent confrontées à un manque de matériel médical pour mener à bien leur travail. Bien que leur présence soit essentielle, il n'y en a pas assez. Trop de femmes accouchent sans assistance. Cette journée met en lumière ces travailleurs de l'ombre ainsi que leur rôle crucial dans la rééducation de la mortalité maternelle. Et maintenant, le sommaire. Au sommaire de cette émission, nous recevons Justine Haré, directrice des éditions Talents Haut, pour découvrir le fonctionnement du monde de l'édition suite au limogeage d'Olivier Nora. Elle sera interviewée par Vladimir. Du côté du Zoom, ce sera avec le groupe Scory qui sort son album Galodrome. Je m'occupe du Flash Info et Jeanne et Ludmilla sont les chroniqueuses de ce soir. Et on commence avec l'interview de la matinale.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Et aujourd'hui, nous recevons Justine Haré, directrice des éditions Talents Haut. Bonjour Justine Haré.
Bonjour.
Avec vous, nous évoquerons le limogeage d'Olivier Nora et le monde de fonctionnement de l'édition. Donc vous serez interviewé par Vladimir. Bonjour Vladimir.
Bonsoir.
Et c'est à toi.
Bonsoir, merci beaucoup Fabien. Justine Haré, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice donc de la maison d'édition indépendante Les Talents Hauts. Donc on reviendra un peu en deuxième partie de l'émission sur voilà, tout votre parcours, comment est-ce qu'on fabrique des livres dans les maisons d'édition indépendantes. Mais d'abord, on va parler un peu d'actualité parce que du coup il y a eu un peu un séisme dans le monde des grandes maisons d'édition puisque le 14 avril 2020 a été limogé Olivier Nora, donc qui était directeur de la maison d'édition de Grasset et qui était dans le groupe Hachette depuis très longtemps, une figure un peu tutélaire, emblématique des grandes maisons d'édition et qui a été limogé sous pression du patron, du coup Vincent Bolloré. Donc on va revenir un peu là-dessus. D'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer un petit peu sur qui était Olivier Nora et dans le monde de l'édition et dans le monde de l'édition indépendante, qu'est-ce qu'il représentait ?
Alors, juste une petite précision, je suis directrice éditoriale des éditions Talents et non pas la directrice. Je m'en voudrais de prendre sa place, mais c'est pas grave. Je préfère le préciser. Et pour revenir sur Olivier Nora, c'est une figure emblématique de l'édition, de la littérature blanche, mais pas seulement. C'est un éditeur qui a découvert de nombreux talents, qui s'est illustré en faisant des choix éditoriaux singuliers, qui a fait naître des carrières d'auteurs et d'autrices, qui a construit en fait des auteurs et des autrices. Qui a construit un catalogue qui existait déjà bien avant son arrivée. Grasset, c'est une maison qu'on pourrait qualifier de patrimoniale, hein, qui a vraiment un fonds qui est très très riche et très important et qui est très varié aussi en termes de valeurs. Et Olivier Nora a perpétué ce qui avait été fait avant lui, a permis aussi à Grasset de conserver une place importante et primordiale dans le monde de l'édition de la littérature générale aujourd'hui.
J'ai cru comprendre que c'était quelqu'un qui venait pas de nulle part. aussi. Il était très installé, une grande famille aussi qui avait déjà ses installations dans le grand milieu de l'édition. Donc c'était une personne qui était vraiment très installée dans le microcosme de l'élite littéraire aussi.
Oui, oui, puis c'est aussi une époque de l'édition, c'est-à-dire que c'était une époque où aujourd'hui, vous le savez sans doute, il y a des tas de masters pour nous former au métier d'éditeur ou d'éditrice. On suit des formations, il y a vraiment toute une structuration en fait du métier, ce qui n'était pas le cas à l'époque où Olivier Nora a commencé. Il est entré dans ce milieu via sa famille et via ses acquaintances et ses goûts pour la littérature. Mais c'est pas, enfin, ça fait partie des grands noms quand on cite des éditeurs et des éditrices. Même quand on connaît pas trop ce milieu, Olivier Nora, c'est un nom qu'on connaît.
Donc c'était un nom qu'on connaît et notamment qui éditait chez Grasset des auteurs et des autrices très très différents en termes de parcours, en termes de lignes parfois un peu littéraires et politiques. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms par exemple tutélaires des auteurs ou des autrices qui étaient édités chez Grasset?
Il y a Virginie Despentes évidemment, ouais. Hein, on y a toutes, elle a beaucoup pris la parole ces derniers jours pour parler de ce qui est arrivé à son éditeur et à sa maison. Des tas de noms donc qui me viennent pas spontanément là.
Frédéric
BBD, il y a Laura Adler par exemple, ils ont publié des textes de personnes qui ont été résistants ou résistantes, et en contrepartie voilà, ils ont pu publier Bec BD qui n'est pas un chantre de la gauche, on va dire. Donc il y avait une représentation très diverse et très variée, et ce qui fait le sel de la littérature et de l'édition aussi, c'était ce qui prouve bien qu'Olivier Nora est un éditeur avec un esprit très ouvert et qui avait pour but ce que tout éditeur et toute éditrice doit avoir, de faire passer une parole, un message. Et il ne se mettait pas des limites très claires. Je fais ça et je ne fais pas ça pour des raisons X ou Y.
Bah, les limites, du coup, lui ont été un peu imposées, puisqu'on a vu que le 14 avril, vraiment un coup de théâtre, il a été licencié de son poste de directeur chez Grasset. Par Vincent Bolloré, par le conseil d'administration. Pourquoi est-ce qu'il a été licencié? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus?
Alors, j'ai quelques éléments qui sont dans les journaux, etc. C'est qu'en fait, Olivier Nora était un peu dans le viseur, on va dire, de Bolloré depuis plusieurs années, en sachant que Bolloré a racheté le groupe Hachette en 2023 et qu'il a entrepris à partir de 2023 une tactique qu'il a menée dans d'autres médias, c'est-à-dire de remplacer un peu les figures de résistance, enfin de faire tomber les figures de résistance au sein d'Hachette. Donc il a commencé par Fayard, on en a tous et toutes entendu parler, en installant Lise Boël à la tête de cette maison d'édition qui a vraiment changé de cap, ou en tout cas pris un cap très très clair vers la droite et l'extrême droite depuis qu'elle s'est installée au poste de directrice éditoriale. Et Olivier Nora était une figure de résistance, c'est quelqu'un qui était reconnu comme un éditeur qui n'avait pas, enfin qui avait des idées et qui savait les défendre et qui avait vocation à continuer à le faire. Et donc pour Bolloré, c'était quelqu'un qu'il fallait remplacer parce que quelqu'un qui lui menait une opposition. Donc en fait, il y a eu un prétexte. Enfin, le prétexte a été que Olivier Nora ne voulait pas publier un texte que Bolloré voulait publier dans le groupe Hachette, et ce prétexte-là a servi à le limoger. Ce que je voudrais préciser, c'est que il y a les éditions Grasset et il y a aussi les éditions Grasset Jeunesse. C'est important d'en parler aussi parce que Valéria Vangloff, qui est l'éditrice de Grasset Jeunesse, rendait des comptes à Olivier Nora, et aujourd'hui on ne sait pas à qui elle va devoir rendre des comptes. Enfin si, on sait à qui elle va devoir rendre des comptes et on ne sait pas exactement ce qui va lui être demandé comme compte à rendre. Donc c'est aussi le catalogue de Grasset Jeunesse qui est en danger, et Grasset Jeunesse plus largement qui est en danger, et ça aussi ça doit nous alerter puisque la littérature de jeunesse, c'est celle qui forme les citoyens et citoyennes de demain également.
Bien sûr, on aura l'occasion d'en revenir parce que je crois qu'une grande partie de vos éditions sont aussi tournées vers la jeunesse.
Exactement.
Il y a eu des réactions très fortes face à ce licenciement, d'abord dans le monde de la culture et dans le monde de l'édition, et on peut dire un peu de l'élite de l'édition. Il y a eu des réactions très vives. Il y a eu une émission spéciale sur France Culture, le Salon du Livre a notamment été très marqué par ce licenciement. Il y a eu une tribune qui a été publiée dans le Monde dès le 15 avril par au moins 130, et je crois que écrivaines et écrivains qui se sont ensuite rajoutés, et dont beaucoup ont annoncé l'arrêt de leur collaboration avec Grasset, en citant une atteinte inacceptable à l'indépendance éditoriale. Tout ça, ça a été vraiment quelque chose de très fort. Mais pour d'autres, et peut-être pour des acteurs un peu plus petits de la maison d'édition, il y a eu des des articles peut-être un petit peu plus critiques où ils disent que les auteurs et les autrices et Olivier Nora auraient peut-être dû se réveiller un petit peu plus tôt face à justement cette prise en main de Vincent Bolloré sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard. Quel est votre avis, vous, là-dessus? Est-ce que ces réactions étaient fortes, légitimes? Est-ce qu'elles auraient dû arriver plus tôt?
Alors que les auteurs et les autrices aient réagi, se soient fédérés et signé cette tribune, donc ils sont 170 je crois en tout à l'avoir signé pour la littérature adulte, et il y a la littérature jeunesse aussi qui s'est fédérée et ils ont formé un seul groupe à la fin. Donc ça c'est très légitime et je les comprends parfaitement et c'est ce qu'on attend aussi des auteurs et des autrices, enfin des personnes qui réfléchissent normalement, qui pensent. Quant à dire ils auraient dû se réveiller plus tôt, je trouve ça assez injuste en fait. Parce que parfois il y a une question d'impossibilité de choix. Il y a aussi une question d'aimer les gens avec qui on travaille. C'est pas parce qu'on ne veut pas travailler avec Bolloré qu'on ne veut pas travailler avec Olivier Nora. Olivier Nora travaille dans le groupe qui appartient à Bolloré. Est-ce qu'on doit sacrifier sa relation à son éditeur pour des questions capitalistiques, en fait? Je trouve que c'est un peu éliminer des éléments de l'équation un peu trop vite, en fait. Évidemment qu'on a envie de se dire Olivier Nora aurait dû partir et fonder sa propre maison avec, et ses 170 autoristes auraient suivi, mais c'est pas si facile que ça, en fait. Il y a une question de budget, de capital. Et puis, il y a aussi une question de... On est engagé, en fait, vis-à-vis de sa maison d'édition. On ne peut pas partir comme ça. Même les 170 autoristes qui ont fait le choix de partir vont partir à partir de maintenant. Mais les titres qu'ils ont publiés chez Grasset appartiennent à Grasset. Donc, il y a aussi... est-ce qu'on abandonne son œuvre derrière soi? Enfin, c'est...
Mais beaucoup ont dit qu'ils allaient quitter Grasset, mais qu'ils avaient encore des livres qui étaient censés être en cours de publication et d'édition, etc. Et donc, forcément, ils sont tenus par ces engagements.
C'est ça. Ils sont tenus par ces engagements. Engagements qu'ils ont pris parce qu'ils avaient confiance dans leur éditeur, dans les équipes éditoriales qui travaillaient chez Grasset. Et ça, vraiment, je ne leur jetterai pas la pierre. L'édition, le travail d'auteur, d'autrice, se faire publier, c'est tellement difficile. Et évidemment qu'on parle des grands noms, Virginie Despentes, elle retrouvera une maison d'édition, je ne me fais pas de soucis pour elle. Mais il y a toutes celles et ceux pour qui Grasset peut-être a publié leur premier texte.
C'était un tremplin important pour eux.
Voilà, et ils y sont attachés, je les comprends.
Oui, bien sûr. Et dans le monde de l'édition indépendante, les réactions ont été plutôt en justement soutien à ces réactions-là. Il y a eu une réaction vive. Est-ce que vous avez vu dans le monde de l'édition indépendante vraiment tout un mouvement aussi? Parce que c'est assez inédit quand même d'avoir autant de...
Oui, il y a eu des prises de parole un peu éparpillées, mais il y a aussi eu une tribune qui a été rédigée et qui a été portée notamment par l'EDIF, qui est l'Association des maisons d'édition indépendantes d'Île-de-France. Une tribune donc, qui a été signée par, je dirais peut-être 90-100 patrons, patronnes de maisons d'édition, mais aussi des éditeurs, éditrices, des libraires également, sur le fait que c'était dramatique, mais en même temps, c'est pas une surprise.
Oui. Et donc, vous vous sentiez solidaire, et c'est intéressant aussi de pouvoir noter que Olivier Nora était quand même une figure un peu tutélaire, une figure très très centrale de ce monde de l'édition. Et du coup, c'est vraiment regrettable par rapport à ça. Vous, dans le monde justement de la littérature jeunesse, vous sentez aussi qu'il y a un mouvement, que ça se politise. Est-ce que vous sentez qu'il y a une politisation grandissante? On a vu ça avec le festival d'Angoulême, notamment avec la BD, une politisation assez inattendue. Est-ce que dans le monde de l'édition, vous avez l'impression que ça évolue à ce niveau-là aussi?
Oui et non, c'est-à-dire que j'ai l'impression que dans l'édition indépendante, ça fait quand même un peu partie du jeu, en fait. De toute façon, tout livre est politique, tout livre est porteur d'un message, donc c'est encore, quand on est une maison d'édition indépendante, et encore plus une maison d'édition indépendante engagée comme on l'est chez Talent Haut, pour nous, c'est évident que chaque livre est politique et que notre réflexion doit aller au-delà de la simple publication d'un livre. Après, dans le monde général de l'édition, il y a surtout une grande frousse, en fait, puisque l'édition, c'est 4 énormes groupes, dont le plus grand est Hachette, évidemment, mais il y a Editis, Madrigal, Actes Sud et Albin Michel, donc ça fait même 5 groupes, des acteurs indépendants qui sont, certes, qui peuvent se montrer solidaires les uns des autres, mais qui sont complètement éparpillés, qui ne dépendent que de leurs propres capitaux, de leurs propres forces. Donc être politique, avoir un message politique, s'engager et donner son opinion, c'est une démarche qui peut aussi être pénalisante pour certains. Donc il faut aussi avoir ça en tête. Mais je pense que les choses bougent.
Merci.
Eh bien, merci beaucoup. On va faire une petite pause musicale et on écoute Zombie de Bina.
Thank you. just in and out the same. Panic and dust and game, searching for a scene. Nothing is here to stay, nothing is going away. Born from yesterday, everything's for free. I wanna be the oldest in the world right now. Backseat of a limo in my head in the clouds. Hiding from the zombies that are scaring up the town, town, town. Just gonna play it up. We all have fun, pretending we can fly. We're all so young and dumb enough to try. We get so high and then we're crashing down. Down, 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 down.
C'était Zombie de Bina sur Radio Campus Paris. Une petite erreur. Eh bien, on continue tout de suite avec la deuxième partie de l'interview. Donc, nous sommes avec Justine Haré, directrice des éditions Talents Hauts, et nous parlons du monde de l'édition. Vladimir, je te laisse la parole.
Merci beaucoup. Oui, on est toujours avec Justine Haré, directrice éditoriale chez Talents Hauts, chez la maison d'édition indépendante Talents Hauts. On avait parlé du coup en première partie de l'actualité qui était le limogeage d'Olivier Nora, et j'aimerais bien revenir du coup maintenant un petit peu plus, on en a parlé un petit peu ensemble, sur la méthode de Vincent Bolloré. Parce que c'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, c'est-à-dire que des milliardaires qui concentrent des médias, on en connaît depuis des vingtaines d'années, il y a eu des précédents dans l'histoire, etc. Mais là, il y a quand même une spécificité à la manière dont Vincent Bolloré rachète des médias. Donc on parle du fait qu'il ait par exemple racheté Canal+, CNews, des chaînes d'information, Dailymotion, plein de choses aussi sur Internet. Et aussi, du coup, c'est un peu la spécificité peut-être de son rachat. On parle maintenant d'un empire Bolloré, avec notamment des maisons d'édition comme Fayard, Larousse, les éditions Grasset dont on parlait. Et on en parlait peut-être un petit peu, mais quelle est sa méthodologie de rachat et en quoi, du coup, est-ce qu'elle pose un problème pour la liberté éditoriale par rapport à d'autres grands possédants ?
Oui, donc sa tactique, en fait, c'est de racheter des médias et de faire tomber les figures de résistance, comme je disais, et d'installer des gens à sa botte, en quelque sorte, dans ces médias-là. Donc, il a commencé par Canal+, par CNews, etc. Et on a bien vu, en tout cas sur CNews, que c'est...
Avant iTélé, il y a eu une grève gigantesque, il n'a pas bougé, quoi.
Voilà, c'est ça. Les journalistes partent, invoquent la fameuse clause de conscience, et ils partent et ils le remplacent, en fait, par des équipes qui sont dans la même optique que lui. Et donc, ça change complètement la direction d'une chaîne de télé ou d'un journal. Ça a été le cas au JDD également. Et il fait la même chose en fait partout, donc il avait fait la même chose dans l'édition, et là où ça pose vraiment des questions, en tout cas dans l'édition, mais ça, du coup dans tous les médias, c'est que quand on est une maison d'édition, par exemple le Talent, on est une maison d'édition, pour vendre nos livres, on a besoin d'un diffuseur qui envoie ses équipes de représentants et représentantes en librairie pour présenter nos livres, et en plus de ce diffuseur, on a besoin d'un distributeur qui va envoyer nos livres en librairie, et ça, en l'occurrence, nous, on fait appel à un diffuseur-distributeur extérieur qui ne nous appartient pas. Donc, on est son client et on travaille ensemble. Ce qu'il faut voir avec Hachette, c'est que Hachette détient à la fois des maisons d'édition, mais aussi un organe de diffusion et de distribution. Donc, ça veut dire qu'il gère toute la
chaîne de production.
Chaîne de production du livre. En plus de ça, Bolloré possède des librairies. On parle des relais qu'on trouve dans toutes les gares, dans tous les aéroports, mais il a racheté il n'y a pas très longtemps une librairie à Paris assez connue qui s'appelle l'Écume des Pages. Donc il a l'organe de production, l'organe de commercialisation. Il a aussi des médias tels que la télé, les journaux qui vont faire la promotion des livres, qui vont faire de la communication. Donc si on prend par exemple un livre de Jordan Bardella publié chez Fayard.
Grand auteur.
Voilà, grand auteur. On peut ensuite faire une tournée dans les librairies qui appartiennent au groupe Hachette et promouvoir cette tournée à la télévision, dans les journaux, sur Internet. Et tout ça en cercle fermé. Et voilà, c'est un tel monstre en fait qu'à côté... La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, comment lutter face à ça.
Et surtout qu'on a un peu des précédents historiques. Alors, bon, c'est un peu un point Godwin, un peu facile, mais je me permets aussi, grâce au travail de Johan Chapoutot, qui a fait un super travail dans son dernier livre, Les Irresponsables, où il explique notamment que dans les années 30, pendant sous la République de Weimar encore, il y avait du coup, je crois que son nom c'était Hugenberg, qui avait racheté énormément de médias en Allemagne, qui concentrait énormément de choses et qui avait fait clairement un pacte avec l'extrême droite afin de valoriser. Donc il avait acheté, je crois, 2000 cinémas qui à l'époque distribuaient vraiment toutes les actualités. Il avait acheté des maisons d'édition, des journaux, etc. Il y a aussi cette concentration parce que lui, du coup, avait compris que c'était pas juste un symbole, on va dire, de valeur pour un milliardaire d'avoir une grande maison d'édition et des grands titres, mais qu'il y avait vraiment un message politique que lui voulait faire passer et faire diffuser un peu dans la société.
C'est exactement la même tactique, en fait. Hein.
On retrouve ça vraiment chez Bolloré aujourd'hui. Quoi.
Ah oui, complètement. Enfin, c'est le même, il suit le même schéma. C'est vraiment, il y a tout, la radio, les journaux, les maisons d'édition, tout quoi. Donc,
Et du coup, bah, pour rebondir, parce que là, bon, on a peut-être envie un peu de pleurer, parce que c'est quand même un peu dur, et c'est
non,
vrai que
non.
C'est jamais bon de nous renvoyer dans les années 30. Et justement, résistons. Vous êtes partie d'une maison d'édition indépendante. J'imagine que vous faites partie de tout un grand réseau de maisons d'édition aussi indépendantes. Comment est-ce que, face à justement cette concentration-là, à cette diffusion forcée des idées d'extrême droite, cette destruction de la liberté éditoriale qui est voulue par les grands patrons d'industrie, etc. Comment est-ce que les maisons indépendantes, comment est-ce qu'on résiste, comment est-ce qu'on lutte, comment est-ce que vous, par exemple, vous le faites ?